Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « La victoire finale ». Nous arrivons à l'étude numéro 6. Et le titre sera « Jésus est notre paix ». Alléluia. Il est notre paix, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Non seulement il donne la paix, mais il est la paix. Là où il est, la paix est manifestée. Ce n'est pas une chose que nous nous efforçons d'obtenir. Non, non, non. La paix est une personne. Notre paix vient de notre intimité avec lui, avec Jésus. Nous devons apprendre comment demeurer dans sa présence en ordonnant continuellement à notre âme de retourner dans son repos comme le faisait David. Ceci n'est pas un exercice pour les super spirituels. Non, absolument pas, loin de là. Cela devrait devenir tout naturel de retourner en sa présence puisqu'il est déjà en nous par le Saint-Esprit si nous sommes nés de nouveau. Il n'est pas un Dieu lointain, mais il est un Dieu en nous, uni inséparablement dès l'instant de notre nouvelle naissance. Il habite dans notre esprit. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. N'oubliez pas de noter, si vous le pouvez, les indications bibliques. En effet, celui qui est le prince de la paix, il vit dans mon esprit. Mon esprit et l'esprit de Christ, les deux deviennent inséparablement entrelacés. Je fais instantanément l'expérience de la paix du salut, sachant que le fardeau de mon péché a été ôté et que je ne suis plus l'ennemi de Dieu, mais je suis maintenant son enfant. Mon esprit humain, jusque-là, qui était mort dans l'iniquité et le péché, et j'en sais quelque chose, car je reviens de bien loin. Donc, mon esprit humain, jusque à la mort, dans l'iniquité et le péché, reçoit maintenant Christ immédiatement par son esprit éternel. Aussitôt, je suis vivifié alors que la vie de Dieu ranime la flamme de la lampe qui est mon esprit humain. Proverbe chapitre 20, verset 27, eh bien ce proverbe nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ». Et ce verset révèle une autre vérité intéressante. Ah oui, cette lampe étant maintenant allumée par sa divine lumière. Elle est utilisée par Dieu pour sonder les profondeurs de notre être. Une fois que Dieu a établi sa résidence dans notre esprit, il ne prendra de repos tant qu'il ne possède pas toutes les composantes de notre personnalité, c'est-à-dire notre âme, esprit et tout l'être. Il veut donc, le Seigneur, que toute sa plénitude règne dans notre être tout entier. Gloire à Dieu. Chers amis, à l'intérieur de chaque croyant, dans le fin fond de notre être, il existe une chambre préparée pour Dieu lui-même. Il s'agit de notre esprit créé comme étant la demeure pour Dieu, car lui-même est esprit. Notre architecte divin nous a créés pour lui-même. Nous ne sommes jamais ni heureux ni épanouis tant qu'il n'a pas rempli ce lieu vide. Il est mort sans lui. Lui seul, Jésus-Christ, peut donc le vivifier. Aucune religion au monde, aucune vertu humaine ne peut agir sur ce domaine particulièrement vital de notre être. Toute religion n'apportant pas la vie à notre esprit est vide et vaine. Voyez-vous, Jésus dit, il a dit à la femme près du puits qu'il lui donnerait de l'eau et qu'elle n'aurait plus jamais soif. Seul l'Esprit Saint de Dieu, uni à notre esprit, peut étancher cette fameuse soif. Nous sommes incomplets sans Yahvé l'Éternel. Le Saint des Saints, dans les profondeurs du tabernacle de Moïse, c'est l'image de notre esprit. C'est la partie du tabernacle où se trouvait l'arche de sa présence, où se trouvait le lieu le plus saint. Oui, le lieu de Yahvé l'Éternel. Nous portons en nous, sous forme de semence, l'arche divine de sa présence, c'est-à-dire la gloire, le Shekinah, brillant au-dessus du trône de miséricorde et descendu à la Pentecôte, pour habiter le peuple de Dieu. Non seulement Dieu était avec nous, mais il était en nous, selon Saint Jean, chapitre 14, verset 17. Jésus a promis que l'Esprit Saint de Dieu serait en nous, en Saint Jean, au chapitre 7, verset 30. Il a donc promis que des fleuves d'eau vive couleraient de notre sein. Ce mot « sein » signifie le torse, la poitrine du corps humain. Et c'est là que se trouve le lieu désigné comme « habitation de Dieu », c'est-à-dire notre sein. Il y habite. Si nous perdons, chers amis, de vue cette fameuse vérité, eh bien, nous perdons conscience de la présence de Dieu en nous. Néanmoins, il est là. Sa voix est souvent étouffée par notre mentalité charnelle. Et à cause de cela, eh bien, nous subissons inutilement des privations. Nous devons apprendre à maintenir une communion continuelle avec lui. Dieu fait une description vivante de cette fameuse situation dans Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16. Il est dit, « Mais Sion a dit, « L'Éternel m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront. Mais moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant moi. Alléluia. Dieu nous paraît parfois si loin et nous nous sentons rejetés et abandonnés. Pourtant, voyez-vous, Dieu vit en nous et il nous parle et malgré sa proximité, nous ne l'entendons pas. Il nous assure pourtant qu'il ne nous a pas oubliés et que nos murs sont continuellement devant lui. Chers amis, notre entendement est tout simplement obscurci. Oh, le mien, il était très longtemps obscurci. Même que j'étais déjà sauvé, chrétien, chrétien de nom, d'accord. Eh bien, mon entendement est resté longtemps obscurci et j'en ai honte de vous l'avouer. On doit être honnête dans la vie. Il ne faut pas se dire plus qu'on est. La Sainte Bible nous enseigne la raison exacte. C'est le résultat d'une intelligence qui n'a pas été parfaitement informée quant à la vérité. C'est ce qu'on appelle un entendement charnel, c'est-à-dire notre intelligence naturelle ou humaine. La vie de Dieu est en nous, mais nous y sommes étrangers à cause de notre ignorance. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Nous devons commencer par comprendre la vérité. Nous ne sommes pas coupés de Dieu spirituellement. Nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Il vit toujours dans notre esprit. Ce n'est que dans notre entendement que nous sommes coupés de lui. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et cela peut même arriver à quelques serviteurs ou servantes de Dieu. Notre entendement naturel créé va donc créer un voile entre nous et notre esprit, réalisant une séparation pareille au voile dans le tabernacle de Moïse. Nous n'expérimentons pas la douceur de la présence de Dieu, quoique il soit présent, non pas parce que Dieu en nous est moins que Dieu, mais parce qu'il est limité par notre manque d'entendement. Nous devons aussi travailler pour entrer dans le plus profond repos de Dieu. Nous avons notre part à faire. Nous devons collaborer avec Dieu pour permettre à l'intelligence naturelle d'être renouvelée par la connaissance de Dieu. Notre pensée doit être reprogrammée par la vérité de Dieu. Sa vérité est notre nouvelle réalité. Nous sommes nés de nouveau, notre esprit est uni à Christ, et pourtant le domaine de l'âme dont fait partie la pensée doit être transformé. Notre salut commence par la nouvelle naissance, et cela arrive instantanément. Ensuite vient la restauration de l'âme et de l'esprit, et cela prend parfois des années. Ce qui fut mon cas. C'est un processus au cours duquel nous avons besoin d'être enseignés. Une transformation qui dure toute la vie commence ainsi. C'est complètement surnaturel, mais c'est aussi progressif. Nous pouvons établir un parallèle entre la restauration de la terre telle qu'elle est décrite dans la Genèse et l'œuvre de rédemption faite par Dieu en nous. L'une est naturelle et l'autre est spirituelle. La Genèse débute avec la terre dans un état de complète désolation et nous la voyons transformée progressivement par la Sainte Parole et l'Esprit Saint de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, Beaucoup de saints ont fait la comparaison entre ces œuvres originelles de Dieu et la transformation qui se fait dans nos âmes par la grâce. Nous voyons les changements progressifs se faire entre le moment où la terre était informe et vide et celui où Dieu créa l'homme à son image. Que ce soit dans l'homme ou dans le monde, l'œuvre se fait. L'homme est tout un monde en lui-même. Il a en lui toutes sortes de régions inexplorées qu'il ignore totalement lui-même. Il est à la fois ténèbres et lumière. La terre et le ciel l'habitent aussi. De même que les tempêtes ravagent la terre, les passions de l'homme le détruisent. En lui se trouvent des pressions volcaniques, couvant des incendies qui explosent parfois avec violence. Puisque dans notre aveuglement, nous pourrions passer à côté de la grandeur de l'œuvre de Dieu en nous, il nous la montre clairement au moyen de la création. En chaque cas, Dieu œuvre à la restauration de son ouvrage et il est chaque fois question de la perfection et l'ordre divin remplaçant les ruines d'un côté dans le naturel et de l'autre dans le spirituel. Dieu œuvre dans le domaine naturel jusqu'à l'apparition de l'homme qui était créé à son image, puis il se reposa. Yahvé l'Éternel doit œuvrer en nous jusqu'à ce que Christ soit réellement formé en nous et que son image soit vue dans cette œuvre-là. Il ne peut se reposer tant que son œuvre n'est pas rendue parfaite en nous. Mais ensuite, il cessera son travail. Dieu ne créa pas la terre dans un état chaotique pour des raisons qui ne nous sont pas révélées. Sa création première fut totalement anéantie sous un jugement non divulgué. Une création détruite, laissée sous les décombres et la raison qui motive les 6 jours de création de Dieu. C'est la motivation qui a donc voulu qu'il y a eu 6 jours de création de Dieu. Quoique, la terre était sous les ténèbres, eh bien Dieu ne s'en désintéressa pas et son esprit planait au-dessus d'elle, selon la Genèse chapitre 1, verset 2. Oui, cela est vrai aussi pour nous. Avant que ne commence l'œuvre de Dieu en nous, son esprit plane au-dessus de nous, avant même que nous entendions la sainte parole de Dieu, avant de le connaître ou de l'aimer, son Esprit Saint plane et il nous cherche. Quoique nous soyons sans recours et dans les ténèbres, eh bien notre Dieu est tout près de nous. Dans ce récit de la Genèse, il est indispensable que nous comprenions une vérité fondamentale. La créature n'a rien commencé. La créature ne perpétue rien et ne perfectionne rien. Seule la sainte parole de Dieu transforme, et c'est elle qui contient la vie et la puissance. C'est pour nous, comme pour la création naturelle, la première démarche qui vient de Dieu. La transformation, elle se fait lorsque la sainte parole de Dieu est prononcée dans la création, elle est progressive. Elle ne s'est pas faite d'un seul coup, mais elle a été menée à la perfection pendant 6 jours successifs. Dans la nature, nous avons d'abord la pousse, ensuite nous avons l'épi, et puis ensuite nous avons le grain. Nous avons le bébé, l'enfant, et puis nous avons ensuite l'adulte. Ainsi en est-il de la grâce. L'œuvre de Dieu se poursuit du soir au matin, jour après jour. Même après que la lumière se soit levée, les ténèbres de la vieille nature subsistent et menacent la nouvelle nature. Et cela, oui, cela, jusqu'au jour où il n'y aura plus de nuit. Le jour de la perfection, oui, ce sera le jour du repos. Quand l'œuvre de Dieu commence en nous, nous sommes dans le noir, nous sommes informés vides à cause du péché, mais il commence à opérer un changement en nous. Son travail avance pas à pas. À chaque étape, quoique nous soyons loin d'avoir atteint la perfection, Dieu nous regarde dans notre imperfection et parce qu'il nous aime, il voit que cela est bon. Dès le début, Dieu voit le bien. Et lorsqu'il nous regarde, il voit ce qui est le Christ en nous. Peut-être nous ne voyons-nous que péché et échec en nous-mêmes et également chez les autres. Mais Dieu nous regarde et il dit que cela est tout de même bon. Voir Christ dans les autres, même quand son œuvre en eux ne fait que de débuter, c'est de lui ressembler. Nous pouvons voir Christ dans certains chrétiens plus anciens ou ayant plus d'expérience, mais il nous faut voir la grâce de Dieu chez les uns et les autres, même, oui, même lorsqu'il s'agit de l'aube de la grâce. De même que les 10 jours de la création de Dieu et son sabbat sont une image de la restauration de nos âmes, nous pouvons voir cette même image dans une autre partie de la Genèse. Nous le voyons dans la vie de Adam et de ses descendants. Regardons un peu de plus près cette comparaison afin d'illustrer clairement le sens de ce que je veux dire. Au début de la Genèse, le premier jour, la première scène que nous voyons n'est que ténèbres. Et Dieu commence son œuvre et la lumière se manifeste. Qu'accomplit-elle cette lumière lors de son apparition? Eh bien, elle met en évidence la désolation la plus totale. Oui, elle révèle le fameux chaos. Et elle fait apparaître l'étendue infinie d'une création qui était en ruine. En résumé, la lumière qui est venue a exposé l'immensité du dénuement. Dans sa désolation, la création avait désespérément besoin de son créateur. Comparons cela avec le premier homme, Adam. Adam, tout de suite après sa chute, là nous voyons que Dieu est venu dans le jardin, sa lumière de vérité éclaira la déchéance d'Adam et révéla sa nudité et celle de sa femme. une nudité tellement fondamentale, tellement vaste, qu'il aurait été impossible de la couvrir simplement avec des feuilles de vigne. La lumière révéla leur état de perdition. La lumière transperça toute tromperie et révéla à Adam l'immensité de son besoin ainsi que son incapacité totale d'y remédier par lui-même. Comparons cela maintenant avec l'état dans lequel nous sommes quand Dieu nous trouve. Le monde caché de nos âmes ressemble à une mer agitée par la tempête. Nous sommes en guerre contre Dieu, que nous l'admettons ou pas. Nous sommes dans le désespoir sans Dieu et sans espérance. Nous sommes semblables au fils prodigue qui, vivant avec les porcs dans un pays lointain, avait de grands besoins. Et lorsque la lumière le visita enfin, il dit dans Saint Luc chapitre 15 verset 17 qu'il est rentré en lui-même. Dans la révélation que donne la lumière, il a pu voir son état, il a pu se rendre compte de sa souillure et il a compris qu'il devait retourner vers son Père. Ainsi en est-il pour nous dans cet instant d'illumination spirituelle. Nous voyons soudain que nous sommes perdus et incapables de nous en sortir tout seuls et que nous manquons de tout et qu'il nous faut nous lever et aller vers notre Père céleste. Chaque situation a un point commun. La création de Dieu se trouve dans les ténèbres et la désolation. La lumière vient, révélant l'état des choses et l'immensité des besoins, qu'il s'agisse du monde extérieur ou de l'homme intérieur. En pensant toujours à cette analogie, venons au deuxième jour de la création. Ce jour-là, Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il sépare les cieux d'avec la terre. Il créa une limite entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Cela peut être comparé à la deuxième génération de vie sur terre. Caïn et Abel sont nés de Adam, en effet. Et voyez-vous, deux vies autonomes ont donc surgi d'une même racine, celle de Adam. L'un représente le naturel ou le terrestre, l'autre représente le céleste, le surnaturel. L'un grandit selon la nature, l'autre grandit par grâce. Caïn représente la nature ou la chair. Son intelligence est charnelle. Elle n'est pas soumise à Dieu. Abel, lui, est né par grâce et il est né d'en haut. Ces deux fils sont l'image de la dualité qui est en nous après notre nouvelle naissance. Nous avons une nouvelle nature, née de l'Esprit Saint, mais notre intelligence est celle de la chair. Nous sommes d'une certaine manière à la fois Caïn et Abel. Deux volontés se font la guerre dans la même personne. Oh, c'était mon cas. C'est l'étape du combat de l'âme. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cette étape est un signe de croissance. Alléluia. Il y a eu en nous le développement de quelque chose de nouveau. Il y a eu une sorte de croissance. Avant, cette division n'existait pas puisque rien en nous ne mettait au défi la chair et toutes ses convoitises. Mais maintenant, il y a en nous l'œuvre d'un homme nouveau, se développant en quelque chose de neuf et de saint. Néanmoins, tout cela est encore bien loin du repos sabbatique promis par Dieu. Dieu vivant en nous ne pourra pas prendre de repos tant que sa volonté n'est pas parfaite en nous et que son esprit ne règne entièrement en nous. Dieu demande la souveraineté absolue dans sa nouvelle demeure en nous. Notre chair déteste et ne supporte pas cette pensée-là et ne cède pas. Elle reste sur ses positions, refusant d'être délogée par de fréquents jeûnes et des heures de prière. Une seule chose peut la vaincre, c'est la foi. Nous devons accepter et nous appuyer sur ce que la sainte parole de Dieu dit sur la chair. Il ne faut jamais essayer de tuer le vieil homme charnel. Nous devons plutôt le considérer comme étant déjà mort, déjà crucifié avec Christ. Le premier stade de notre vie en Christ est un lieu de combat. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu, mais la guerre continue au niveau de la pensée et j'en sais quelque chose et j'en ai honte. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne dépassent jamais ce premier stade. En y demeurant, nous passons à côté des plans de Dieu et de tout ce qu'il met à notre disposition. Si nous nous plaçons sous le joug de Christ, il nous conduira plus loin. Il nous conduit dans un repos plus profond où sa présence est manifeste. La présence de Dieu ne peut couler que dans un cœur au repos. Dieu est le Dieu de la paix. Sa présence ne peut être sentie dans l'arène du conflit intérieur. Si nous avons des conflits avec quelqu'un, nous devons, avec l'aide du Seigneur, résoudre le problème. Mais sa glorieuse présence, elle vient en effet là où la lutte a cessé. Et avec sa présence, il nous apporte ce dont nous avons besoin. Nous devons lui préparer une habitation dans nos cœurs. Nous préparons sa demeure dans nos âmes et notre esprit. De la même manière qu'il n'a pas été permis à David, en tant qu'un homme de guerre, de construire le temple, qui était et qui est la demeure permanente de Dieu, eh bien, nous non plus, nous ne le pouvons pas. C'est Salomon, cet homme de paix, qui a pu construire le temple. Mais c'est à cause des guerres que a fait David que les ennemis ont été vaincus et que finalement, oui, Salomon a pu hériter d'un royaume de paix grâce, un peu quand même, à David. Ainsi, c'est parce que nous passons par le stade du combat et la défaite du vieil ennemi que la paix pourra régner dans nos cœurs. Comme David qui a eu beaucoup de combats avant de maîtriser ses puissants ennemis et d'apporter la paix à Israël, eh bien nous aussi nous combattons pour vaincre la chair afin d'entrer dans le repos de Dieu, c'est dans ces cœurs-là que Christ vient habiter, et cela pour y faire sa demeure. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul priait pour que précisément ce miracle se fasse dans les cœurs des Éphésiens au chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit « afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. » L'apôtre Paul priait que Christ meure dans leur cœur. Cette parole évoque un endroit d'habitation pour Christ, oui, un lieu pour s'installer, pour ne jamais plus le quitter, un lieu de repos dont le Christ est complètement propriétaire. De la même manière que Salomon a construit une maison permanente de repos pour l'ancienne arche de l'Alliance, eh bien nous aussi nous devons lui préparer cette demeure dans nos cœurs. Lui avons-nous donné notre cœur pour qu'il soit sa maison, ou bien lui avons-nous seulement offert une petite place comme on pourrait offrir un lieu de repos à un invité quelconque? Christ est-il plus qu'un invité quelconque dans notre maison? Où lui avons-nous donné le droit total de propriété par notre obéissance et par notre soumission? Notre cœur est-il vraiment sa maison pour qu'il la dirige comme bon lui semble? Si c'est le cas, eh bien, il en fera sa merveilleuse maison. Si quelqu'un m'aime, est-il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous, ensemble, viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui et chez elle. J'ajoute, Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Nous préparons une demeure pour Dieu dans nos cœurs en écoutant sa sainte parole et en obéissant à cette sainte parole. C'est là le désir éternel de Dieu. C'est son but éternel. C'est de vivre en nous afin de créer un domicile permanent, un lieu de repos en vous et en moi. La gloire de Dieu peut ainsi se manifester là où habite sa personne, oui, là où il trouve un véritable accueil. Quand le temple de Salomon a été achevé, la gloire de Dieu, la Shekinah, est venue pour l'inonder. Ses parvis furent remplis de la présence divine et la traîne de sa gloire remplissez tous les alentours. Quand notre obéissance sera parfaite, eh bien cette même présence nous remplira aussi, nous a promis Jésus-Christ. Celui qui demeure dans notre esprit se manifestera dans notre âme. Voyez-vous, la religion telle qu'elle fut reçue sur le mont Sinaï était une religion très pure. Par cela, j'entends, c'était une religion pas encore polluée par les caprices et les erreurs des hommes. Quand nous étudions cette religion dans sa forme la plus pure et le tabernacle tel qu'il l'avait ordonné, nous voyons un seul but central dans le plan de Dieu. La religion toute entière avec son système de sacrifices était uniquement centrée autour de l'arche de la présence de Yahvé l'Éternel. Il était nécessaire que l'arche fût voilée et cachée à la vue des hommes, qu'elle soit enveloppée de rideaux épais. Mais le but tout entier de la religion ancienne testamentaire était de frayer le chemin, ce chemin qui propulserait l'homme vers cette présence divine. Dieu, dans sa gloire impressionnante, désire avoir une demeure au milieu de son peuple. Il a toujours aspiré à cela. Au début, l'homme, représenté par le souverain sacrificateur, entrait dans l'arche une seule fois par année. Mais Jésus, le véritable souverain sacrificateur, a ouvert le chemin afin que chacun d'entre nous puisse entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu localisée dans ce petit coffre appelé arche pourvoyait à tous les besoins d'une nation de 2 à 6 millions d'âmes errant dans le désert. Oui, et ce désert aride, il ne peut aujourd'hui entretenir la vie humaine. Et pourtant Dieu y a soutenu toute une nation pendant 40 ans. Pouvons-nous nous imaginer l'immensité d'un tel miracle? Considérons-le point par point, pourquoi pas? D'abord, il y avait la présence divine manifestée le jour par une nuée et la nuit par un feu. Ce désert est notoire pour ses températures extrêmes atteignant parfois de 43 à 55 degrés à midi et tombant au-dessous de zéro pendant la nuit. En effet, le Seigneur modifia le climat du désert pour son peuple, car la nuée tempéra la chaleur ardente pendant le jour et le feu réchauffa le froid de la nuit. Ces esclaves sortis d'Égypte avaient-ils pris des couvertures pour le voyage? En possédaient-ils et en avaient-ils même besoin lorsqu'ils vivaient au nord du Nil? Certainement pas. Mais Dieu modéra à tel point ces extrêmes, on peut dire climatiques, que les tout petits pouvaient même dormir confortablement la nuit sous les tentes. C'est pas rien. Considérons l'eau que Dieu donnait surnaturellement à son peuple. J'ai vu des beaux tableaux montrant l'eau sortir des rochers selon la description du psaume 105, verset 41. Il ouvrit, Yahvé l'Éternel, il ouvrit le rocher et les eaux en découlèrent. Elles allèrent par les lieux secs comme une rivière. Mais en vérité, cela ne pouvait être un petit ruisseau, pas du tout. Cela devait être un véritable fleuve. Des étudiants de la Bible aux Philippines ont fait à ce sujet une étude dont le but était de déterminer combien d'eau et de manne étaient nécessaires pour pourvoir aux besoins journaliers de plusieurs millions de personnes et de tous les animaux qui les accompagnaient. La quantité requise de nourriture et d'eau est inimaginable. Environ 4000 tonnes de manne par jour. Pouvons-nous imaginer toute cette nourriture tombant du ciel jour après jour? Pour remorquer une telle quantité, il faudrait 2 trains de marchandises, chacun ayant 1,5 km de long. Nous ne savons pas l'étendue du désert ainsi conditionné, mais certains spécialistes pensent que le campement des 12 tribus pouvait couvrir une superficie d'approximativement 1875 km². La quantité d'eau nécessaire pour 3 millions de personnes, et ainsi aussi pour le bétail et pour les premières nécessités telles que la consommation propre, telles que pour faire la vaisselle, etc., serait 50 millions de litres par jour. Pour transporter une telle quantité, il faudrait 25 km de wagons-citernes. Dieu l'a accompli de façon surnaturelle, et cela pendant plus de 14 600 jours. Donc, une génération tout entière en a bénéficié. De surcroît, on nous dit que leurs chaussures et leurs habits ne s'usèrent pas pendant ces 40 années et qu'il n'y a eu pas de malades parmi eux, il n'y a pas eu de gens affaiblis ou infirmes. Même parmi les personnes âgées qui sont sorties d'Égypte avec leur famille. Quoi qu'ils aient été une nation d'esclaves en Égypte, craignant les cruels négriers et tremblant devant ces despotes qui littéralement les faisaient trimer à mort, commence il n'y a pas si longtemps que ça, un certain Hitler dans les camps de concentration, eh bien, si j'ai dit pas si longtemps de ça, c'est en rapport évidemment avec l'éloignement de notre texte biblique. Alors cette même nation inspirer le respect et la crainte dans tous les pays de Canaan. Dieu a donc mis sa terreur sur les habitants du pays, selon Josué, chapitre 2, verset 9. Chers amis, Dieu demeure maintenant en nous. Nous sommes maintenant l'arche du Nouveau Testament. Nous sommes maintenant l'endroit où Dieu choisit d'habiter. Mais pour en bénéficier des avantages, il est bien entendu nécessaire de permettre à cette présence d'agir dans notre intelligence et dans nos émotions, c'est-à-dire dans notre âme et dans notre corps tout entier. Nous sommes faits d'après le même modèle que celui du tabernacle de Moïse. Dieu demeure dans notre esprit et âme, ce qui correspond au Saint des Saints, là où l'arche était enfermée. L'intelligence et les émotions sont représentées par le sanctuaire du tabernacle. Le parvis correspond à notre corps physique. Nous sommes le temple de Dieu, mais la plupart du temps, Dieu est limité à la petite chambre qui est notre esprit. Il est tenu, restreint, alors qu'il doit pouvoir sortir de derrière le voile de notre intelligence charnelle. Il doit pouvoir être libre entièrement libre de remplir notre âme comme notre esprit de sa présence, car sa conquête la plus chère, c'est notre âme et esprit. Il est uni à notre esprit, mais il désire tout autant être uni à notre âme. La présence de Dieu apporte avec elle sa puissance ainsi que toutes ses bénédictions et toute son abondance. Aucun manque, aucun problème ne peut subsister dans sa présence. Mais nous devons travailler afin que son habitation dans nos cœurs soit une habitation propice. Lorsque cette attitude règne dans nos cœurs, eh bien, Dieu peut faire sa demeure en nous en puissance et en gloire. Dieu nous conduit dans son repos afin de pouvoir à son tour être au repos en nous. Et c'est là qu'il manifeste sa présence avec tout ce que celle-ci pourvoit d'excellent. Nos cœurs ne sont pas encore tous une demeure paisible pour le Seigneur. Mais le but de Dieu est de mener à bien cette œuvre en vous ainsi qu'en moi. Le résultat est glorieux. Nos vivres seront ainsi bénis abondamment et nous recevrons l'onction et la domination. Nous serons donc couronnés. Cela signifie notre domination sur toute la puissance de l'ennemi. Et nos adversaires seront revêtus de honte. Ainsi, nous voyons cela dans les versets 15 à 18 du psaume 132. Il est dit « Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres et je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses saints exulteront en chantant de joie. Là, je ferai germer la corne de David que j'ai préparée une lampe à mon oint et je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui » sur David, fleurira sa couronne. Est-ce que nous progressons, chers amis, vers ce but de Dieu? Notre but à nous est-il celui de devenir une sainte habitation à la présence de Dieu? Assurément, oui, Dieu prépare sur terre un tel peuple en ce moment même. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, vous pouvez lire « Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le tabernacle de Dieu est donc avec les hommes. Cela s'accomplira, oh oui! Un peuple hébergera en lui la plénitude de Dieu. Que vous le croyez ou pas, nous sommes ce peuple-là. Oui, nous sommes destinés à être le domicile éternel de Dieu. Il n'existe que deux endroits où Dieu choisit de vivre. Il vit dans les palais d'ivoire céleste. Mais aussi, il vit dans le cœur soumis, celui où le roi Jésus, le Messie, est intronisé comme étant le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais son lieu de prédilection, c'est le temple de nos âmes, pour lequel il renonce volontiers au palais d'ivoire. Nous sommes donc son habitation élue par lui. Le docteur Yonki Cho, parle de cela dans son livre « La quatrième dimension ». Personnellement, je n'arrive pas à tout comprendre de son livre. Mais il cite les problèmes que ont les chrétiens coréens avec leurs amis non-chrétiens du fait que le Dieu des chrétiens est un Dieu invisible. Ces personnes non converties, ne connaissant que les idoles vues qu'on peut voir dans le temple ou dans les temples de certains quartiers de leur ville. Mais où votre Dieu habite-t-il ? Demandent de nombreux Coréens. Yom Kisho en parle, il en a parlé au Seigneur et lui a demandé, voyons, où vais-je leur dire que tu habites ? Et le Seigneur lui a répondu que c'est toi mon adresse. Mon domicile, c'est les cœurs de mon peuple. C'est là que j'habite désormais. Oui, nous sommes l'habitation de Dieu. C'est formidable. Jésus est né dans une étable empruntée, comme quelqu'un l'a fait remarquer. Son berceau était une mangeoire empruntée. Quand il vivait sur cette terre, il disait « Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. » Il est mort, il fut enseveli dans une tombe empruntée. Dieu n'a pas de maison permanente sur cette terre, mais il a un plan. Et ce plan a toujours été d'être de plus en plus présent parmi son peuple. Ce peuple formé par lui dans la création originelle, puis racheté de l'ennemi par son sang précieux, s'édifie maintenant intérieurement par son Esprit Saint. Vous et moi, nous sommes donc l'adresse de Dieu. Jésus a dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. » Aucun endroit sur cette terre n'a été gratuitement offert à cette tête royale. Cette tête ou ce chef, c'est Christ le Messie. Nous sommes son corps. Sa tête doit avoir un lieu de repos sur cette terre, que nous puissions être ce peuple qui épaule la tête royale. De la même manière que les Lévites portaient l'arche de l'Ancien Testament sur leurs épaules, puissions-nous être les Lévites du Nouveau Testament ? Le peuple a atteint cet objectif, dominera, et il dominera parfaitement, puisque Ésaïe chapitre 9 nous dit que le gouvernement est sur ses épaules. Demeure-t-il entre nos épaules? Lui avons-nous, chers amis, offert nos vies pour lieu de repos? Quand les difficultés se présentent, Dieu se lève-t-il pour disperser nos ennemis, car sa présence fait fondre le méchant comme la cire devant le feu? Psaume chapitre 68. Où est-ce la crainte qui se lève dans nos cœurs? Oui, la crainte, la confusion, devant être maîtrisée, elle doit être maîtrisée et vaincue avec persévérance. Si tel est le cas, nous ne sommes pas encore ce lieu où Christ a fait toute sa demeure. Dieu ne peut habiter au milieu du stress, au milieu des conflits et des doutes. Pour terminer cette étude où, on peut dire, et que je dois vous avouer, j'étais étonné que le Seigneur a gardé ma voix intacte, car tout de même, j'ai essuyé deux fois des pneumonies infectieuses doubles, et j'ai failli les deux fois mourir. Oui, ce sont des épreuves. Parfois, ces épreuves nous aident. Dans mon cas, ils m'ont quand même fait comprendre beaucoup de choses. Et maintenant, malgré quand même les 88 ans, eh bien, je suis étonné, je ne devrais pas être étonné. Je suis plein de reconnaissance que le Seigneur a pu à un tel point rétablir ce système que je n'arrive pas à tout comprendre. Mais par contre, j'ai compris de dire tous les jours merci. Quand le Seigneur vous bénit de quoi que ce soit dans votre vie, n'oubliez jamais de dire merci. Il y avait un certain nombre d'aveugles qui ont été tout de même miraculés. Un seul est revenu en arrière pour humblement remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a fait comprendre que c'est au fait le seul qui peut être assuré par la suite jusqu'à la fin de sa vie d'avoir le bonheur éternel, éternellement. Pour terminer cette étude, j'aimerais vous dire que nous avons la source de tout repos, de toute paix, de toute subsistance nécessaire à une vie victorieuse demeurant en nous, mais notre intelligence humaine perd beaucoup trop vite de vue cette vérité lorsque nous sommes confrontés à certaines difficultés. Nous devons apprendre à vivre dans une communion permanente avec Dieu. Tous, par moments, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu et nous sommes renouvelés, mais nous ne vivons pas totalement en lui à tout moment. Oui, nous connaissons la théorie, mais nous vivons pas toujours tout cela par la pratique. Et je vous avoue, j'ai honte de vous dire que j'attriste parfois encore aujourd'hui, avec des détails bien sûr, mais quand même, mon Sauveur et mon Seigneur. Toute demeure où réside Jésus n'est pas forcément devenue sa demeure totale. Nous continuons à nous efforcer d'entrer dans son repos. Dieu est quelque peu honoré par nos efforts, d'accord, mais il l'est tellement plus par notre repos. Quand nous sommes dans son repos, c'est tout de lui et rien de nous. Je répète, quand nous sommes dans son repos, tout vient de lui et rien de nous. Notre chair est tranquille. Elle est apaisée par notre confiance en lui. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Et vous pouvez à tout moment réécouter une telle étude, car ce n'est pas évident que je reçois chaque fois une telle bénédiction et une telle inspiration. Ce n'est pas automatique. Prions, Seigneur, nous montons à Jérusalem à ta suite, avec toi, et nous voulons monter, bien que craintifs et parfois effrayés. Nous avons besoin de te suivre dans la mort, puisque tu donnes rendez-vous au calvaire à toute créature, quelle qu'elle soit, riche ou pauvre. Si tu es mort, c'est qu'il nous faut mourir. Si, pour porter du fruit, tu es tombé en terre, c'est qu'il nous faut entrer être enterrés dans le sillon. Et si nous devons souvent avancer à notre tour sans bien comprendre ce que nous avons besoin de l'amour mystérieuse qui explique tout ce qui vivifie tout, attache-nous donc seulement, s'il te plaît, à Jésus-Christ, pour que nous passions par le même chemin, c'est-à-dire par Gethsémané, par Golgotha, et tiens-nous quand nous ne comprenons plus, et apprends-nous que notre plus fortifiante nourriture est parfois de souffrir de la part des autres, afin de mieux comprendre que tu as été crucifié pour nous. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et bien entendu, vous comprendrez qu'il faut beaucoup de prières. Et je dois avouer que ça ne me tombe pas dans la bouche automatiquement. Mais Dieu est bon. Il est incroyablement bon et nous pouvons que le remercier tous les jours parce que je dois vous dire franchement, j'ai parfois l'impression que je ne mérite pas toute cette bonté qu'il a envers moi, toute cette grâce, tout ce qu'il aide, car il me doit rien, il nous doit rien, mais il est là pour nous aider continuellement. Continuellement, nous pouvons nous adresser à notre Seigneur. Chers amis, à demain matin, que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir.